6-9 de l'été. Pierre Veille sur France Inter.
Et maintenant, c'est la revue de presse avec Jacqueline Fardel. Bonjour Jacqueline.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Avec en une, l'armée des oubliés.
Des oubliés comme Claudia, 39 ans. On la trouve debout au milieu de résidents attablés. Une main posée sur celle de Claudine, sa fille, polyhandicapée. De l'autre main, elle continue de lui porter la purée à la bouche. Allez, asseyez-vous, je prends le relais. Elle encourage à ses côtés une aide-soignante. Vous êtes ici pour ça. La maman finit par céder. Dans quelques heures, elle dira au revoir à sa fille de 17 ans en fauteuil roulant. Elle va la laisser un mois ici dans cette maison de répit de Tassin la Demi-Lune près de Lyon. C'est la première fois en 10 ans qu'elle part en vacances. Matin, soir, week-end, elle porte à bout de bras Claudine. Comme Claudia, ils sont 11 millions en France à aider un proche, âgé, handicapé ou malade. On les appelle les aidants et ils sont en une du Parisien aujourd'hui. Ces héros du quotidien, cette armée d'oubliés qui par amour, amitié ou solidarité mettent leur vie entre parenthèses pour se charger d'une personne dépendante. 20% d'entre eux sont en burn-out. Mais les choses bougent enfin, assure le Parisien. Cette maison de répit donc qui vient d'ouvrir près de Lyon et un grand plan qui doit être annoncé à l'automne avec notamment un congé indemnisé.
Elle aussi se bat depuis des années, Jacqueline, c'est Mana, 33 ans, réfugiée érythréenne.
Elle a obtenu le droit d'asile en 2015 avec son plus jeune fils. Le Monde nous raconte son combat acharné pour faire venir ses trois enfants les plus âgés dont elle s'est séparée en 2013 en Éthiopie. La France refuse de délivrer des visas à sa famille. C'est quelqu'un de très fort, témoigne un militant de la Chapelle Debout, une association qui s'occupe d'elle. Mais au fil du temps, elle se disperse, s'abîme. Je me souviens avoir passé une nuit à la Salpêtrière parce qu'elle avait mal. On ne lui a rien trouvé. Le médecin lui a prescrit du Xanax. Voilà à quoi se résume la proposition de la France. Aujourd'hui, le dossier n'avance pas. Les actes de naissance des enfants établis en 2015 comportent des anomalies. L'attente d'obtenir le statut de réfugié, de trouver un travail. Le quotidien de ces femmes migrantes est aussi rapporté sur le site de Mediapart ce matin. Reportage dans un centre d'accueil du sud de la Tunisie, à Médénine. Une quarantaine de femmes arrivées là après avoir connu des routes migratoires difficiles, les violences, l'exploitation, parfois la traite humaine. Elles vivent avec leurs enfants et des mineurs non accompagnés. Dans chaque chambre, une à trois femmes qui se partagent une pièce d'une quinzaine de mètres carrés. Témoignage de Mariama, 28 ans, originaire de Sierra Leone, avec ses deux bébés nés le mois dernier. C'est difficile d'élever des enfants dans un centre d'accueil, dit-elle. Mon principal problème, c'est d'arriver à trouver du lait. Ici aussi, l'armée des oubliés, l'armée des femmes courage.
Et des femmes mobilisées encore au sud du Berry.
Quatre futures mamans qui ont déposé plainte fin juin pour mise en danger de la vie d'autrui. Elles redoutent d'accoucher en chemin, nous expliquent les Échos ce matin, alors que la maternité du Blanc a fermé. Il faut donc se rendre à Châtellerault ou à Poitiers à une heure de transport, dans tous les cas, dit Aurélie, 31 ans, qui va accoucher en septembre. La crainte est réelle, explique le quotidien économique. Elle se nourrit d'une désertification médicale déjà connue. Avec l'ex-Picardie, la région Centre-Val de Loire affiche la plus faible densité de médecins. Au Blanc, il faut attendre 3 mois pour consulter un généraliste. Cherche médecin désespérément, c'est aussi la une de l'Indépendant catalan aujourd'hui. À Perpignan, preuve de l'urgence aux urgences, un médecin est recherché pour le 1er août, demain donc.
Et c'est d'un autre genre de pénurie dont nous parle Marianne ce matin.
La pénurie de sperme, un risque à anticiper, écrit l'hebdomadaire. La demande va augmenter avec l'arrivée de la PMA pour toutes et la ressource est déjà relativement rare en France où le don est gratuit. Le nombre de demandes annuelles devrait doubler ou tripler et sans un recrutement important de donneurs, nous ne serions pas en mesure de répondre dans les mêmes délais qu'actuellement, s'inquiète le médecin qui dirige le centre de gestion de la PMA de l'hôpital de Rouen. Une autre disposition du projet de loi pourrait encore aggraver cette probable pénurie. Le droit d'accès aux origines. Les enfants pourront demander à connaître l'identité du donneur. Ce qui veut dire qu'il faudra détruire les anciens stocks quand le donneur n'a pas consenti à donner son identité. Une levée de l'anonymat qui pourrait aussi décourager les dons. Alors faut-il rémunérer ces dons comme le font plusieurs pays européens? 39 euros la visite au Royaume-Uni. Et ça ne suffit pas. Le pays importe 40% de ses dons de sperme. C'est encore plus en Belgique, 63% de dons importés. Payer les donneurs ou importer, des options qui n'ont de toute façon pas été retenues dans le cadre de la nouvelle législation. Les délais d'attente risquent donc de s'allonger, à moins que les grandes campagnes de recrutement que veut lancer le gouvernement ne parviennent à mobiliser les mâles énergies de France. Un mâle, un vrai, l'ours, qui a beaucoup à nous apprendre, nous dit Télérama ce matin. sur le mystère de son hibernation en particulier. Comment un si gros organisme survit-il à 6-7 mois d'insuffisance cardiaque, rénale, sans perdre de masse osseuse ni musculaire? Les scientifiques ne l'expliquent pas, mais s'ils parvenaient à isoler ces particules hors du commun, leurs résultats pourraient être décisifs pour soigner l'ostéoporose, les maladies cardiovasculaires et même la maladie d'Alzheimer. Les connexions neuronales de l'ours diminuent pendant son hibernation sans séquelles, et elles se rétablissent à son réveil. N'inventez plus, la nature a tout prévu. L'hebdomadaire culturel nous livre une passionnante plongée dans le biomimétisme, ou l'imitation du vivant qui fait progresser la science, où la biodiversité est une magnifique boîte à outils pour la médecine, mais aussi la robotique ou la technologie. Regardez le TGV japonais, train le plus rapide et le plus silencieux au monde. Inspiré par le bec d'un martin-pêcheur, qui lorsqu'il plonge provoque un minimum de turbulence, inspiré aussi du plus image du hibou qui lui permet de ne faire aucun bruit quand il chasse. Et les trouvailles à venir sont plus prometteuses encore. Des pales d'éoliennes qui imitent les nageoires des baleines à bosse, des toiles d'araignées qui pourraient offrir une alternative au titane. Le champ des possibles est grand ouvert pour peu que l'on veuille bien se reconnecter au vivant, prendre soin de cette armée d'espèces qui nous inspire.
Se reconnecter, c'est pas vraiment au menu de ce que propose Libé, Libération ce matin.
Dans votre assiette, Pierre, de la viande désincarnée, ça vous dit, de la viande in vitro. Alors que chaque seconde, les terriens consomment plus de 10 tonnes de viande, eh bien de nombreuses startups se lancent dans la production de steaks propres, entre guillemets, des steaks non pas sortis des abattoirs, mais des laboratoires, fabriqués à partir de cellules souches, de bœuf, de porc ou encore de poisson. Plus d'élevage donc, ni de transport ou d'abattage. Et l'éventail est large. Des entreprises américaines ont ainsi conçu des prototypes de saucisses, boulettes, croquettes et autres nuggets. D'autres sociétés travaillent sur les poissons et les fruits de mer. De la viande cultivée, oui, mais pour qui? Véganes et végétariens sont loin d'être les premiers ciblés. Ces steaks du futur s'adressent à tous ceux qui aiment la viande, mais qui se passeraient bien de l'ingrédient souffrance animale. Dans le monde, entre 30 et 40 start-up investissent dans cette technique. Aux États-Unis, mais aussi aux Pays-Bas, en Allemagne ou encore en Israël. Et une première start-up vient d'émerger en France. Enthousiasme de ses responsables, il s'attaque à un des piliers de la gastronomie française. Nous souhaitons mettre la barre très haut, dit l'un d'eux. Nous allons produire le premier foie gras issu de l'agriculture cellulaire. En l'occurrence, les cellules utilisées proviennent d'un œuf de canne. N'inventez rien. La nature a tout prévu, c'est ce qu'on vous disait.
C'était la revue de presse avec Jacqueline Fardel. Vous écoutez France Inter, il est quasiment 8h52.